C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu de mémoire sur la route de l'exil. Lors d'une dernière émission d'Un brin d'histoire, nous avions parlé de l'exil des républicains espagnols en France en 1939. Après la chute de Barcelone en janvier 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols, évalués entre 450 et 500 000 personnes, franchissent la frontière. Pour tenter de maîtriser ce flot de civils et de militaires, suivi aussi donc par cette armée en déroute, le gouvernement français installe en hâte dans les Pyrénées des camps de concentration ou camps de réfugiés sur les plages d'Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Barcarès, plus tard Rivesaltes et dans d'autres départements, Brame, Le Vernet, Agde. D'autres sont installés au Boulou, en Vallespir et en Cerdagne. Ces camps seront ouverts jusqu'en 1942. Une grande partie de ces réfugiés sera dispersée peu à peu dans les travaux agricoles, des fabriques d'armement, dans les mines. Certains retourneront en Espagne, d'autres s'engageront pour défendre la France dès 1939. Beaucoup enfin partiront vers les pays d'Amérique de langue espagnole, surtout le Mexique, ayant soutenu leur cause. D'emblée, rien n'est prévu. Ces camps n'ont aucune construction. Aussi, on rassemble tout le monde sur les plages. Les réfugiés eux-mêmes font des abris avec des roseaux et divers matériaux de récupération. L'internement devient insupportable. Et il n'y a ni toilette ni hygiène. Pas d'eau potable. On fait des trous dans le sable, mais l'eau est polluée. Les reclus se lavent et font leurs besoins dans la mer. La dysenterie fait des ravages. Quelques mois après, on construira des baraques, quelques services. Mais la fatigue, l'exil, les mauvaises conditions de vie, la séparation des familles et le manque de soins et de nourriture provoqueront une mortalité importante. Les hôpitaux aux alentours sont débordés et réservés aux blessés. Rien ou presque n'est prévu pour les femmes qui doivent accoucher, séparées de leurs maris, ayant souvent d'autres enfants en bas âge et psychologiquement affaiblies. Qu'en sera-t-il de leurs enfants au moment de l'accouchement? Elisabeth Heidenbenz est une jeune fille suisse née à Villa en 1913. Dans une famille engagée dans les mouvements pacifistes chrétiens. Son père est un pasteur protestant. Et en 1937, jeune institutrice, préoccupée par le sort des populations confrontées à la guerre civile, elle part, dans le cadre d'un engagement civique du Service civil international, appelé « Aide suisse aux enfants d'Espagne ». Le but de cette association est de porter secours aux populations les plus fragiles, aux enfants, aux femmes et aux vieillards, ceux qui fuient les bombardements. Pendant deux ans, Elle apporte aide alimentaire et soins dans la partie contrôlée par la République. Au fur et à mesure, elle se replie avec les réfugiés dans le Roussillon. Nous sommes fin janvier 1939. L'aide suisse aux enfants d'Espagne s'aperçoit très vite des carences de structures d'accueil, les manques en hygiène pour les femmes et enfants. La tâche humanitaire va se poursuivre. Une première maternité est installée dans le château de Brouilla, près d'Elne. 142 enfants y seront hébergés. Les femmes enceintes des camps d'Argelès et de Saint-Cyprien viennent y passer 8 semaines pour y accoucher. Mais, devant quitter les lieux fin septembre, Elisabeth récupère un château, autre, sur la route de Montesco, à 2 kilomètres d'Elne. Un château surmonté d'une magnifique verrière qui s'appelle le château d'Ambardou. Ce château, qu'elle découvre et qu'elle va louer, a été achevé en 1900. Il a été construit par Eugène Bardou, qui produit la marque de papier Nil et qui a été aussi ancien maire de Perpignan. Il s'agit d'une demeure imposante, en croix grecque, avec un parc. En 1927, à la mort d'Eugène Bardou, le domaine sera vendu, mais reste inhabité, jusqu'en 1939, et il sera loué à l'association. D'importants travaux sont nécessaires. Le toit n'était pas étanche. Des arbrisseaux avaient poussé à l'intérieur. Les besoins sont énormes. C'est inhabitable, pratiquement. Elisabeth part alors en Suisse chercher les fonds nécessaires à ses réparations qui seront réalisées dès son retour. Heureusement, en janvier 40, se crée en Suisse le cartel de secours aux enfants qui va établir une antenne à Toulouse au 71 rue du Thor. La maternité suisse d'Elne est née. Bien que les travaux n'aient pas été terminés, le premier bébé naît début décembre 1939. Et jusqu'à Pâques 1944, 30 accouchements par mois. 597 enfants verront le jour dans cette maternité. 400 naissent de mères venant d'Espagne. Et 200 de mères juives venues d'Europe. Elisabeth, que les mamans espagnoles appellent « señorita Isabel », visite les camps. Elle rapatrie les femmes en état d'accoucher, contacte les autorités. Elle fait construire des baraques plus confortables et distribuer de l'aide alimentaire. Durant ces 4 ans et demi, elle se consacre à la logistique et relations avec les autorités. La maternité est une sorte de république des femmes. Ici, on ne parle pas d'argent. Le contraste est immense avec la situation dans les camps. Les besoins alimentaires sont énormes. Pour cela, le grand jardin devant la maternité est cultivé. les denrées proviennent aussi d'achats de convois alimentaires destinés aux camps, qu'elle améliore, ainsi que des milliers de rations de lait. Les besoins sanitaires et d'hygiène sont assurés par du personnel suisse. On les appelle les sœurs. Plusieurs sages-femmes, dont une sage-femme d'Elne, ainsi qu'un médecin, viennent également. Elisabeth apportera un soutien psychologique à ces jeunes mamans. Elle crée un lieu agréable, un lieu de paix. La lumière y est permanente, grâce à la magnifique verrière du château. On fête tous les événements et ce qui contribue au bon moral des pensionnaires. Il y a également parmi le personnel des réfugiés espagnols, pour les nourrissons, il faut un relais. Ainsi se crée la pouponnière de Banyuls, où arrivent les enfants dénutris des camps. Depuis la rue du Thor de Toulouse, dès 1940, la Croix-Rouge s'occupe de secours dans les camps. À Rivesaltes, c'est Friedel Boni, Elisabeth Rutt. À Gurs, c'est Elsbert Kaiser. Au château de la Hille, avec Rosli Neff, enfin le Recebidou, etc. La Croix-Rouge s'entoure de collaborateurs réfugiés espagnols qui aideront Elisabeth Heidenbenz. Ce sont les fonds humanitaires espagnols et l'œuvre suisse d'entraide ouvrière. En 1942, il y a 6 millions de réfugiés en zone libre, dont 200 000 espagnols. La Croix-Rouge supervise la maternité et elle impose à Elisabeth Heidenbenz un respect des lois françaises, en particulier celle de la question juive. Elisabeth risquera sa vie, défiant la loi. Elle risquera sa vie en hébergeant les femmes juives qui venaient à la maternité. Elle dissimulera les enfants en changeant les noms sur les registres de la Gestapo. Et la Gestapo la menacera d'arrestation et de déportation. Elle sera sauvée in extremis. La maternité est tolérée par l'occupant nazi grâce au statut neutre de la Croix-Rouge suisse. Mais en avril 1944, les Allemands craignent un débarquement en Roussillon et ordonnent l'évacuation et fermeture de la maternité. Elisabeth et ses collaboratrices ont 3 jours pour quitter le château. Elles partent avec résignation, avec leur pensionnaire en Aveyron. Elisabeth continue à vouer sa vie à l'action humanitaire. Elle part alors en Autriche apporter son aide. Le château sera occupé quelque temps par les Allemands, puis par les troupes de la résistance. Il restera occupé ensuite pendant 50 ans. Le message d'Elisabeth Heidenbenz, retrouvé par un ancien enfant né à la maternité, Elisabeth Heidenbenz est décorée à Elne de la médaille des justes parmi les nations, ceci décerné par l'État d'Israël, de même que la médaille d'or de l'ordre social espagnol et de la croix San Jordi du gouvernement catalan, la Légion d'honneur française. Elisabeth Heidenbenz décédera en 2011. Nous associerons à sa mémoire tous les Français ayant apporté un soutien à toutes ces populations fragilisées par la guerre. Que ces événements nous fassent réfléchir, qu'ils s'inscrivent dans une tradition hospitalière, culture de la solidarité, de la paix et culture chrétienne. Aujourd'hui, après 50 ans d'abandon, la commune d'Elne a racheté le château en 2005 pour sa grande valeur historique et symbolique. C'est un musée de la mémoire collective, c'est un espace pédagogique, c'est une auberge humanitaire que nous vous convions à visiter. Thank you.
leur fusil des bien étranges choses.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.